Annoncé dans le programme, M. Jean-François Fallachet, récemment nommé CEO de Telsat, ne pourra finalement pas être des nôtres aujourd'hui. Il a été appelé à rejoindre la délégation officielle du président de la République à l'occasion de sa visite d'État au Royaume-Uni et du sommet franco-britannique que se tient ces jours-ci.
Et donc nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Hubert Le Nôt, directeur de la stratégie de Telsat depuis 2013. En charge des différents programmes et des projets structurants du groupe, notamment sur le rachat de OneWeb, le projet Iris Carré et les nouveaux partenariats qui sont en cours avec le ministère des Armées et l'écosystème de start-up. Monsieur, c'est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les entrepreneurs, les décideurs, les acteurs du New Space, ou tout simplement beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous passionnés de cet espace et de notre écosystème. Je suis ravi d'être aujourd'hui, de retrouver les assises du New Space. Eutelsat a été, depuis le début, c'était seulement en 2022, un partenaire majeur de cet événement. On y a cru. L'événement a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle. Et je crois que c'est le signe du dynamisme de notre écosystème. Donc on peut tous en être contents. Fiers et bravo encore une fois pour cette initiative. Jean-François Fallachet, comme vous l'avez dit, ne peut pas être là pour des bonnes raisons, mais je peux vous dire qu'il aurait été absolument ravi d'être ici parmi nous tous. Il est passionné de ces nouvelles technologies, de ce qui se passe dans notre secteur, du dynamisme, et donc encore une fois c'est avec regret qu'il n'est pas là. Alors, je vais commencer par vous dire quand même quelques mots d'Eutelsat. Eutelsat, c'est un acteur qui a toujours été très attaché à l'innovation. Pas tout à fait un acteur du New Space, certains diront, depuis 1977. Mais on a accompagné depuis toujours les grandes innovations apportées sur les satellites géostationnaires notamment. Je ne vais pas vous embêter en les citant toutes. Mais encore récemment, le premier satellite complètement software-defined, qui s'appelle Quantum, qu'on a lancé et construit avec Airbus, avec aussi le soutien de l'ESA, c'est un satellite dans lequel on s'est impliqué, et c'est un très très beau succès. C'est un peu le précurseur justement des payloads, des charges utiles qui sont encore une fois reconfigurables, très très agiles, et donc c'est juste une avancée importante. Mais au-delà de ça, Eutelsat a pris, je pense, une autre dimension il y a 2 ans, en se mariant avec OneWeb. Et en se mariant avec OneWeb, on devient l'unique acteur dans le monde qui a à la fois une constellation Géo et une constellation Léo. Et on est aussi le seul acteur qui est aujourd'hui concurrent de Starlink. Et donc ça, ça donne à Eutelsat une dimension tout à fait particulière, tout à fait stratégique. Et à ce titre, et je parlerai un peu de nos enjeux futurs pour Eutelsat et nos enjeux communs, à ce titre, on est un partenaire du New Space à différents titres. On est d'abord un client de vous tous et de certains de beaucoup d'acteurs de cet écosystème, un client pour embarquer ces innovations technologiques dans nos satellites, que ce soit des satellites Géo et bien sûr le Léo qui est absolument critique. On est un partenaire puisqu'on co-développe avec vous des nouveaux services que permettent notamment ces constellations Léo. On est aussi un accélérateur, je voudrais insister là-dessus. On l'utilise peut-être pas encore assez, mais c'est dans nos plans. Le Léo, c'est effectivement quelques centaines de satellites en orbite basse. C'est aussi un cycle de renouvellement, comme vous le savez, des satellites assez fréquent, puisqu'on a notre génération 1 qui est bien sûr complètement en orbite aujourd'hui, mais on est en train déjà d'acheter son remplacement avec 100 satellites qui ont été commandés à Airbus et la suite qui devrait suivre très prochainement. Et donc ça, c'est la capacité aussi d'embarquer des charges utiles dans l'espace, et donc c'est la capacité d'embarquer beaucoup de nouveaux services, et ça, c'est un accélérateur, je pense, pour l'ensemble de l'écosystème. Enfin, on est un investisseur puisqu'on contribue à certains fonds qui financent les startups. Je citerai notamment Cosmic Capital, avec le CNES, et donc un fonds qui, encore une fois, permet d'alimenter cet écosystème. Alors concrètement, pour donner des exemples concrets, on est engagé avec beaucoup d'acteurs et dans beaucoup de projets. On le fait d'abord avec la BPI, avec le CNES, avec l'ESA, le MINARM, l'Union européenne. Et donc c'est bien sûr l'occasion aussi de remercier tous ces acteurs qui contribuent bien sûr par le soutien financier à faire de ces projets, à pouvoir financer ces projets, faire ces tests, certains qui vont au bout, certains qui ne vont pas au bout, mais c'est évidemment absolument critique, et j'y reviendrai, d'avoir ce soutien. Et je ne vais pas citer tous les projets dans lesquels on participe, mais quand même quelques exemples qui sont intéressants. Greener Wave, avec qui nous étions d'ailleurs au Bourget il y a quelques semaines. Greener Wave, c'est une technologie de terminaux. Les terminaux, bien sûr, dans le monde de demain, c'est absolument critique d'avoir des terminaux pas chers, agiles, et donc la meilleure technologie là. Greener Wave utilise sa technologie de surface intelligente reconfigurable et des algorithmes d'intelligence artificielle pour, j'espère, développer ensemble des terminaux, justement, demain, légers, agiles, pas chers, et donc fournir la connectivité de façon différenciée. TurnWaves, on développe avec TurnWaves une solution des connectivités de bas débit avec des formes d'ondes résilientes et robustes. Skynopy, qui est un acteur avec qui on utilise nos infrastructures terrestres dans la mission développer un service en réseau mondial au service d'autres opérateurs satellitaires. Ou enfin ExoTrail, un acteur que vous connaissez bien et sur lequel on collabore sur la démonstration d'un service de gestion de fin de vie des satellites. Donc il y en a beaucoup d'autres. Et je voudrais dire aussi, parce que c'est important, qu'on travaille bien sûr avec ces nouveaux acteurs, mais on travaille aussi avec les acteurs établis. Je vais quand même en citer quelques-uns. Soderne, Orange, bien sûr. Je crois qu'il parle, Michael Trabia, qui parle juste après moi. Ariane, je mentionne MayaSpace comme acteur qui est évidemment très important pour assurer l'accès à l'espace. Et bien sûr, Airbus, TAS, sur lesquels on a beaucoup de projets très significatifs. J'y reviens dans un instant. Alors, je crois qu'on ne peut pas aborder cet instant sans parler d'un enjeu qui nous concerne tous aujourd'hui, plus que jamais, ou sur lequel on prend une conscience par les événements que nous vivons, qui est la souveraineté. C'est un enjeu à la fois de responsabilité, c'est aussi un enjeu d'opportunité, je pense, pour tout notre écosystème. À l'heure où l'espace devient un champ d'influence géopolitique, un champ d'influence militaire aussi, à l'heure où, je crois que François Jacques le mentionnait, sur le terrain, l'accès à telle ou telle constellation, pardon, peut faire la différence militaire, c'est absolument critique de remettre cet enjeu au cœur de notre roadmap stratégique. C'est critique de pouvoir servir l'ensemble des acteurs étatiques et commerciaux avec des solutions dont on maîtrise la sécurité, qu'on opère depuis l'Europe et sans être à la merci de tel ou tel acteur qui décide selon son bon vouloir de fournir le service ou pas. C'est absolument essentiel. Et c'est en cela d'ailleurs que le président de la République au Bourget a qualifié Telsat de trésor stratégique, je reprends ces mots. Et je pense que c'est précisément parce que Eutelsat a à la fois des droits orbitaux, une constellation, et donc permet de servir les besoins des acteurs privés, étatiques, de façon pérenne. Et chez Eutelsat, on est pleinement mobilisé, encore une fois, pour répondre à ces enjeux stratégiques. Je vais juste vous en donner trois exemples sur des horizons de temps différents. Le premier enjeu, d'ailleurs, c'est simplement la fracture numérique, s'assurer de pouvoir répondre à l'enjeu de fracture numérique. C'est à la fois en France, bien sûr, c'était le cas avec notre satellite Connect VHTS et le partenariat qu'on a avec Orange sur ces satellites. C'est aussi en Afrique, où on a atteint avec un an d'avance l'objectif de pouvoir apporter la connectivité à plus de 1 million de personnes en Afrique, dans des zones reculées. Donc c'est aussi un enjeu sociétal. Au-delà de ça, il y a un deuxième exemple de soutien qui est le partenariat qu'on a annoncé récemment qui s'appelle Nexus avec la DGA, les forces armées françaises, pour soutenir nos forces armées dans à la fois l'apport de capacités en Europe, aussi la possibilité d'embarquer des charges utiles et la possibilité de renforcer notre réseau en amont d'Iris Carré, la constellation européenne, de façon à avoir, encore une fois, cette sécurité qui est absolument critique pour la connectivité apportée à nos différents acteurs. Et enfin, le troisième horizon, c'est précisément Iris Carré. Et laissez-moi juste rappeler les enjeux d'Iris Carré et dire deux ou trois mots dessus. Iris Carré, c'est la future constellation européenne dans laquelle Eutelsat est non seulement un acteur très engagé, mais surtout le premier investisseur privé. C'est un projet public privé, c'est un des premiers projets public-privé européens de cette ampleur et en particulier dans l'espace, le premier de cette ampleur. Et c'est un projet dans lequel on va amener une constellation de près de 300 satellites qui va embarquer l'ensemble des nouvelles technologies qui sont absolument critiques pour répondre à l'ensemble aux enjeux déjà mentionnés et notamment donc dans ces innovations sont des liens intersatelliques optiques de grande capacité, sont des charges utiles régénératives, c'est la 5G à la fois au sol et dans les satellites, et donc beaucoup d'avancées que vont permettre Iris Carré. Iris Carré, ce n'est pas tout de suite, c'est 2030, mais néanmoins 2030, ça vient très rapidement, et bien sûr, on travaille aujourd'hui avec les acteurs européens pour faire que ceci soit une réalité. Et c'est là aussi que je voudrais rappeler et insister sur le fait que dans ce projet Iris Carré, un de nos engagements, c'est de faire travailler à hauteur de 30% les PME européennes. C'est un engagement auquel la Commission tient beaucoup, auquel nous tenons beaucoup. Ce n'est pas encore tout à fait visible de l'ensemble des acteurs parce qu'on est dans un processus de procurement qui prend naturellement un peu le temps. Donc il faut que ça amène sur tous les sujets sur lesquels ces PME seront mises à contribution, mais c'est quelque chose qui arrive très prochainement et donc qui est très important pour, encore une fois, faire vivre notre écosystème. Je voudrais juste conclure cette intervention pour redire précisément que nous sommes vraiment dans un moment qui est critique. C'est un moment critique parce que l'exigence d'innovation, elle est là, et nous la vivons tous, vous la vivez tous au quotidien depuis quelques années. Et c'est à la fois passionnant, mais on voit que autour de nous, nos concurrents et d'autres grandes puissances avancent très vite. Donc on a une exigence d'innovation. On a une exigence aussi de souveraineté, s'assurer que dans notre roadmap stratégique, effectivement, l'ensemble de ces enjeux de souveraineté soit pensé. Et qu'effectivement, dans les solutions que nous développons, sur les technologies critiques, l'Europe garde le contrôle de ces éléments. Et donc, pour conclure, je pense que précisément pour maintenir notre écosystème, parfois reprendre de l'avance qu'on peut avoir perdue dans tel ou tel domaine, ou garder notre avance, garder aussi et bénéficier de tous les talents extraordinaires qu'on a en Europe sur notre écosystème, on doit s'appuyer précisément sur une génération d'entrepreneurs qui a beaucoup d'idées, d'étoiles dans la tête et de suite dans les idées pour amener des nouveautés, des innovations. On a besoin d'audace des acteurs publics, privés et privés de toute taille, y compris nous-mêmes, pour embarquer ces technologies. Et bien sûr, last but not least, on a aussi besoin de soutien financier. Je crois qu'on peut se réjouir que la France et l'Europe ont tout à fait pris la mesure de cette nécessité de soutien financier. Iris Carré est un projet qui est financé par l'Europe à hauteur de 6 ou 7 milliards pour commencer. La France, et on ne peut que les en remercier très, très chaleureusement et humblement, la France a choisi aussi de soutenir Eutelsat en participant à une augmentation de capital à venir. Ce soutien, il est indispensable. On a aux États-Unis, en Chine, en Inde, des soutiens massifs également qui sont là. Et pour faire vivre notre écosystème, il est absolument indispensable de maintenir ces soutiens. Je suis persuadé que tous ces talents et cette prise de conscience collective sont en train de changer notre écosystème, et je suis persuadé du succès, et Eutelsat est engagé pour faire de ceci, effectivement, à vos côtés, un succès. Merci beaucoup.
Merci à vous. Vous l'avez dit, Eutelsat a été défini par le président de la République comme un trésor stratégique, et le secteur des télécommunications est en pleine évolution.